Vous écoutez France Culture.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Vaut-il mieux miser sur l'augmentation des bas salaires et sur l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers populaires ou bien faire en sorte que les enfants de ces quartiers aient les mêmes chances que les autres d'accéder à l'élite en fonction de leur mérite ? Vaut-il mieux faire en sorte que les minorités ethno-raciales soient bien représentées au Parlement et dans les médias ou bien faire en sorte que les emplois que ces minorités occupent dans le bâtiment et les travaux publics soient plus rémunérateurs et moins pénibles ? Doit-on choisir entre ces alternatives ? Le sociologue François Dubay a une petite et même une grande idée sur la question. Il est l'invité aujourd'hui de la suite dans les idées. Mais avant d'en venir à l'égalité des places et des chances, repenser la justice sociale, c'est ce livre de François Dubay qui paraît à La République des idées. Quelques éléments d'actualité sur un feuilleton qu'on suit depuis de longs mois maintenant à propos de l'enseignement des sciences économiques et sociales dans l'enseignement scolaire, dans le secondaire, puisqu'on est dans la phase de consultation depuis le mercredi 27 janvier sur le site EduSchool, consultation à partir des programmes qui ont été proposés. Alors juste, je voulais vous donner quelques extraits de lettres, de mails, de courriers envoyés à l'association des professeurs de sciences économiques et sociales qui sont sur le site de cette même association, courriers envoyés par des chercheurs, par des enseignants à propos de ces programmes. Rapidement, supprimer l'étude des inégalités, du chômage, etc. en pleine crise financière et sociale est proprement aberrant, tout cela sans écouter les enseignants et les chercheurs en sciences économiques et sociales et en s'appuyant sur les conseils d'un banquier, entre parenthèses Michel Pébrot. C'est sans doute cela la moralité du capitalisme avec des guillemets. C'est signé Thomas Piketty, directeur d'études à l'école d'études en sciences sociales, professeur d'économie à l'école d'économie de Paris. Chers collègues, je viens de prendre connaissance des transformations du programme de seconde. Sans même évoquer la réduction d'horaire, je dois dire que je suis extrêmement choqué par l'affaiblissement des enseignements relatifs au monde du travail, dans ce qu'ils ont de plus concret et important pour les futurs actifs que sont les élèves. À l'heure où le travail compte autant dans la vie économique et sociale, je vois mal que l'on puisse faire ainsi l'impasse sur des objets aussi importants que l'activité, le contrat de travail, le chômage ou encore les relations professionnelles dans un enseignement de sciences économiques et sociales. Signé Michel Lallemand, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Je trouve la méthode détestable et la sélection retenue édifiante. On enlève des programmes tout ce qui de loin ou de près ressemble aux sciences sociales, tout ce qui fait réfléchir et tout ce qui fâche. Je soutiens votre combat au nom de l'Association Française de Sciences Politiques, Nona Mayer, présidente de cette dite Association Française de Sciences Politiques. Je terminerai par une dernière lettre. En tant que sociologue, enseignant et chercheur, j'ai toujours eu une opinion favorable sur l'enseignement de la sociologie dans les lycées. J'ai trouvé en particulier que l'équilibre entre l'économie et la sociologie était bon et faisait bien comprendre leur complémentarité. Alors que nous sommes dans une période de crise grave et qui nous conduit près de la catastrophe, il faut chercher plus que jamais à introduire dans l'étude de l'économie l'analyse des acteurs et de leur mode d'action. De la même manière qu'il faut éclairer l'action sociale par la nature devenue pathologique de la fonction financière ou d'une fonction financière qui s'était détournée gravement de son rôle principal de financement de la production et des besoins des individus comme des entreprises. Beaucoup d'économistes, et pas seulement M. Krugman, ont dénoncé l'incapacité des théories dominantes à expliquer les causes et le déroulement de la crise actuelle. On peut penser que des études portant plus directement sur les actions sociales est de nature à améliorer la capacité d'analyse et de prévision des économistes. Plus élémentairement, l'enseignement de l'économie doit être aussi proche que possible des expériences et des préoccupations des élèves. Mon invité d'aujourd'hui, François Dubay, aura probablement reconnu là la prose d'Alain Touraine, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. François Dubay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur de sociologie de l'Université Bordeaux 2. Vous êtes aussi directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. Vous publiez à La République des idées « Les places et les chances », un livre pour repenser la justice sociale, un livre carré, je vous disais, extrêmement bien construit, qui propose une comparaison, une sorte de allez, je lâche le gros mot, de benchmark de deux conceptions de la justice sociale qui prévalent, qui sont importantes et auxquelles vous tenez, hein, l'une comme à l'autre, mais que vous choisissez de comparer pour mieux, en conclusion de ce livre, au fond, nous dire votre préférence et donner une priorité en nous intimant, au fond, à sortir de ce dilemme, de cette situation dans laquelle il ne faudrait pas choisir, on pourrait tout faire. Alors, pour être extrêmement simple, peut-être pourrait-on commencer par une définition de ces deux conceptions de la justice, celle que vous appelez l'égalité des places d'un côté, celle que vous appelez l'égalité des chances de l'autre, François Dubé.
Oui, on peut de manière très schématique dire que depuis la Révolution française, les sociétés démocratiques sont coincées dans une contradiction, une tension assez simple, qui est d'un côté l'affirmation croissante de l'égalité des individus, nous sommes tous parfaitement égaux, il n'y a plus de caste, etc. Et de l'autre côté, nous occupons des positions sociales inégales, il faut s'accommoder probablement du fait que les sociétés ont des structures inégalitaires, en tout cas s'accommoder pour une période relativement longue. Et donc, cette contradiction, je crois qu'il y a eu deux grandes manières de la gérer. Il y a des gens qui disent, on peut réduire cette contradiction en faisant que les inégalités sociales soient le plus faibles possible. Au fond, les individus resteront le plus égaux possible si les inégalités sociales sont le plus faibles possible. Et ça, ça a été, on peut dire, le grand programme de la gauche, du mouvement ouvrier, des États-providence, qui ne disait pas aux enfants d'ouvriers « nous vous donnerons des chances absolument équivalentes à celles de tous de devenir un jour dirigeant d'entreprise, mais nous ferons tout ce que nous devons faire pour que la condition ouvrière s'améliore et pour que les inégalités entre les dominants et les dominés soient le plus faibles possible. » Et ça, on a envie de dire jusqu'en 1981, pour prendre une ZAD, mais c'était partagé, c'était porté par la gauche, mais d'une certaine manière, le gaullisme, etc., était dans ce modèle de justice.
Alors on va y revenir, mais enfin, voilà. tout ça se mesure, ça a été voilà. mis en œuvre, ça a produit
ça,
des effets.
Ça a été très bien. Tout ça, ça a formidablement réduit les inégalités sociales.
Alors ça, c'est l'égalité des places.
Ça, c'est l'égalité des places. C'est-à-dire que je réduis les inégalités entre les places sociales. Le second modèle, qui est aussi bon d'ailleurs, je voudrais dire, sur le plan moral, consiste à dire on ne peut pas agir sur la réduction des inégalités entre les positions sociales, mais on va faire qu'à chaque génération, tous les individus, en fonction de leur mérite, de leur talent, de leur courage, de leur vertu, etc., puissent avoir des chances équivalentes d'accéder à toutes les positions sociales. Et là, la promesse que l'on fait à l'enfant d'ouvrier, ça n'est plus de lui dire la situation que tu es appelé à occuper plus ou moins sera meilleure qu'elle n'était, mais si tu travailles bien à l'école, tu auras la chance de devenir cadre. Bon. Alors, c'est très important ces deux modèles, pas simplement pour des raisons de philosophie politique abstraite, c'est que ça induit à la fois des pratiques très différentes, puisque dans un cas, j'organise des compétitions très équitables, et dans l'autre, je resserre d'abord les inégalités de position sociale. Et pour le dire très simplement, ça engage deux représentations de la société. Je veux dire que, quand je raisonne en termes d'égalité des places, au fond, je vois la société comme un système de classe sociale. Vous renvoyez le vieux langage qui n'est pas si mauvais. Les gens participent différentiellement, il faut créer de la justice, et ça a été le socialisme, le solidarisme. C'est ça qui est porté derrière. L'autre modèle voit la société d'une autre façon. Les inégalités sont plus vues pareilles et les inégalités sont vues en termes de discrimination. C'est-à-dire qu'on va réfléchir pour identifier les groupes qui n'ont pas les mêmes chances. Et donc, on quitte le monde ouvrier, patron, voilà, pour le monde minorité, femme, handicapé. Et c'est vrai que le modèle des chances est légitime, mais il met en scène d'autres acteurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit très bien, quand le modèle de l'égalité des chances est en train d'envahir la totalité de l'espace, y compris à gauche. Le grand scandale, c'est l'absence d'enfants d'ouvriers à l'école normale supérieure. Bon, oui, c'est un scandale. Mais ça n'est plus tellement les conditions de travail, les inégalités, les conditions de vie. Par exemple, sur les banlieues, on ne dit plus on va au fond transformer les banlieues, on dit on va permettre aux meilleurs des élèves de ces quartiers de partir. Bon, les deux modèles sont, je veux dire, normativement justes, dans un monde idéal, on veut les deux.
Mais les deux modèles sont même constitutifs du projet politique de la gauche très anciennement, parce que oui, là vous pointez des transformations plus récentes du modèle de l'égalité des chances, mais on peut dire que l'école, d'un côté vous avez le socialisme, de l'autre l'école, et vous avez là deux piliers.
Mais l'école, parce que nous aimons sur l'école nous raconter des fables, je veux dire, l'école étant devenue le substitut de notre église, on l'enchante d'autant plus qu'elle s'éloigne. Mais l'école républicaine était une école formidable vertu, mais les enfants des ouvriers avaient leur école, les enfants de la bourgeoisie avaient leur école, et exceptionnellement, les enfants d'ouvriers particulièrement bourgeois, particulièrement vertueux, pouvaient grimper. Mais
ça s'est arrêté dans les années 1960.
On n'organisait pas la vie scolaire en disant vous prenez tous le départ de la même compétition et que le meilleur gagne. Donc c'est pas la même image de la société que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que le modèle de l'égalité des places, au fond, a bien marché, notamment quand il y a eu de la croissance. C'est-à-dire qu'on pouvait, au fond, faire des sacrifices tout en améliorant sa position. Redistribution, droit de succession, protection. Et que ce modèle s'est peu à peu gelé, si je peux dire, congelé, pour reprendre la formule d'Esping Anderson. C'est devenu, au fond, un modèle corporatiste. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui bloque. Au fond, on peut dire que la France a réussi, toutes choses égales par ailleurs, et ça c'est vraiment du benchmarking, à être un pays relativement égalitaire. Je sais que ça choque quand on dit ça, mais c'est un pays relativement égalitaire quand on le compare à des pays comparables. Mais c'est un pays qui fait qu'il est traversé par un clivage entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Au fond, on a choisi l'égalité et le chômage.
Mais bon, pour bien comprendre François Dubey, ça veut dire qu'en France en particulier, parce que c'est toujours intéressant, d'ailleurs, y a des comparaisons de votre travail sur l'effet de l'État-providence dans d'autres modèles, ça voudrait dire qu'en France, on serait placé d'un État, d'ailleurs vous reprenez l'expression que Robert Castel avait qualifié de société salariale, liée à ce moment de croissance que vous évoquiez, à un État postérieur, chronologiquement, qu'on pourrait définir, et Éric Morin reprend l'expression dans son livre paru dans la même collection récemment, de société à statut, au fond.
Oui, c'est ça.
On peut dire ça comme ça.
C'est ça. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il faut comprendre que, historiquement, de mon point de vue, qui ne suis pas un spécialiste de la question, la construction de l'État-providence français a réduit les inégalités, mais n'a pas été une politique égalitariste. Ça a été une politique de protection. Et c'est en protégeant les salariés, les ouvriers, les fonctionnaires, les femmes qui restaient au foyer, etc., ont protégé des groupes.
Des statuts ont été
qu'on
créés.
Qu'on a créé des statuts et une mosaïque de statuts, et ça s'est cristallisé. Donc je crois qu'il y a une vraie crise.
On le voit dans l'exemple des retraites aujourd'hui, par exemple.
Exactement, ou dans le système scolaire. On voit bien par exemple que la gratuité de l'école, qui est un excellent principe, est quand même parfois de la redistribution sociale à l'envers, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'argent des pauvres qui va vers les riches, etc. Donc ce modèle, au fond, est devenu très faible. À mon avis, c'est pour ça que la gauche est coincée, parce qu'au fond, soit elle défend ce modèle et elle défend des clientèles statutaires, soit elle critique ce modèle, et à ce moment-là, elle est dans une sorte de vide idéologique et perd ses clientèles. Donc il y a
Mais la gauche, elle ne le défend pas tellement, ce modèle. Quand on repense aux propositions même d'un Lionel Jospin en 2002, cette façon de considérer l'impôt sur le revenu, par exemple, la gauche a totalement changé. Elle a tourné le dos à cette conception de la justice sociale.
La gauche a quand même gardé largement cet imaginaire, et elle n'a pas eu la capacité de réformer véritablement ce modèle. Je le dis très, très simplement, c'est l'échec réitéré dans ce pays d'une deuxième gauche, au fond, c'est-à-dire de gens qui diraient on adhère pleinement à ce modèle de justice, mais il suppose de transformer profondément nos politiques sociales, etc. Ce modèle se cassant, s'épuisant d'une certaine façon, se crée dans la plupart des pays l'autre modèle qui consiste à dire écoutez, les inégalités sont ce qu'elles sont. Le fonctionnement de l'économie crée des inégalités sociales. La justice, ça n'est plus de réduire les inégalités entre les positions, c'est de faire que les enfants des minorités aient les mêmes chances que les autres d'accéder aux grandes écoles, c'est de faire que les femmes aient les mêmes chances que les autres d'accéder au Parlement, ce qui est un excellent modèle. Excellent. Sauf que, il a, de mon point de vue, quelques problèmes. Le premier, c'est qu'il ne touche plus les inégalités. C'est-à-dire que les inégalités elles-mêmes ne sont pas contestées. Si je mérite ma position, eh bien, tant mieux pour moi. Bon. Ce qui crée d'ailleurs un problème de contrat social, d'une certaine façon. C'est que, qu'est-ce que je dois aux autres dans ce cas? Alors que dans l'autre modèle, je produis de la richesse, il faut me la rendre, d'une certaine manière. Là, on voit bien d'ailleurs le comportement des élites. C'est « je vous dois rien ». C'est « je vous dois rien ». J'ai gagné le match, la compétition était équitable, tant mieux pour moi. Et après tout, je dirais que le fait que les élites s'en tirent comme ça, ça ne gêne pas. Tellement, enfin, bon, c'est désagréable, mais c'est pas... Ce qui est beaucoup plus désagréable et qui est le versant sombre de cette affaire, c'est que les vaincus de cette égalité des chances, eux, on leur doit rien. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Je ne voudrais pas faire de pathos, mais quand vous prenez les quartiers qu'on appelle difficiles, au fond, on est en train de dire, si vous travaillez bien à l'école, on vous en sort, autrement, on vous envoie les flics. Bon. Et c'est quand même ce qui se passe, et pas seulement en France. Et les inégalités se sont creusées. Bon, ça, c'est la première critique qu'on peut faire. La deuxième critique qu'on peut faire, c'est que se définir par son action positive, par la richesse qu'on crée et réclamer justice au nom de ce qu'on donne à la société, me paraît engager un modèle de conflit social et de relations sociales plutôt meilleur qu'un modèle qui conduit à exhiber des discriminations subies, qui sont réelles, qui entraînent, qu'on le veuille ou non, une sorte de concurrence des victimes, quand même. J'ai intérêt à être plus discriminé que d'autres. Et qui entraîne aussi une sorte d'obligation d'assignation. C'est assez pervers, d'une certaine façon.
Une politique identitaire, François Dubé.
Mais je dirais que si la discrimination devient le critère unique des injustices, ça provoque automatiquement une politique identitaire. Moi, je suis, je le dis bien dans ce livre, je crois, je suis pour la totalité des droits culturels. Je veux dire, je ne vois pas au nom de quoi l'État, je suis... libéral de ce point de vue-là, je crois que j'ai droit à la reconnaissance de toutes les identités que je souhaite, dès lors évidemment qu'elles ne nuisent pas aux autres. Bon. Mais si j'assigne des droits sociaux à des identités, ça change tout. C'est-à-dire que j'oblige d'une certaine manière les gens à s'identifier à leur identité, pour dire les choses comme ça, pour en obtenir des avantages. Je change complètement la nature du jeu. Et ça, je crois qu'on pourrait y réfléchir un tout petit peu sérieusement. Le fait que ça blâme les victimes, ce modèle-là, d'une part. Et c'est clair qu'on blâme les victimes. C'est clair qu'on blâme les victimes. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des manifestations contre des mauvais élèves. Enfin, on blâme les victimes. Le fait qu'on oblige les gens à s'identifier fait que cet excellent principe d'égalité des chances, d'une certaine manière, peut nous engager... S'il devient le modèle dominant, et il devient le modèle dominant, il peut nous engager vers une société pas si sympathique que ça.
Justement, François Dubé, il devient le modèle dominant. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce constat que vous faites pour essayer d'en comprendre l'origine, de comprendre les causes. J'en vois deux qui relèvent d'ordres différents. D'un côté, on peut se dire qu'il y a des causes... sociale profonde et une montée en puissance de l'individualisme, par exemple, phénomène sur lequel vous avez travaillé dans des livres antérieurs. Et puis, il y a un autre type de cause, peut-être à plus court terme, plus directement politique, parce qu'au fond, vous avez rappelé combien ces deux conceptions de la justice sociale, égalité des places, égalité des chances, étaient enracinées dans l'histoire de la gauche. Sauf que la nouveauté politique récente, c'est peut-être que la droite a reconquis une forme d'hégémonie culturelle en faisant primer le modèle d'égalité des chances sur celui d'égalité des places.
En termes gramsciens, pour parler comme ça, la droite est devenue hégémonique.
Donc il y a des... On le sait, des stratégies qui s'appellent triangulation, où Nicolas Sarkozy va aller chercher des conceptions de la justice sociale à gauche. Mais évidemment, c'est pas celle de l'égalité des places qui va aller prendre à gauche. C'est celle de l'égalité des chances. Donc, en gros, pour faire vite, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Est-ce que ce sont ces transformations profondes qui ont à voir avec la montée en puissance de l'individualisme? Ou est-ce que ce sont des stratégies politiques ou est-ce que c'est une sorte de combinaison des deux, François Dubé?
Je crois que ce qui compte, c'est d'abord que l'on a assisté à l'épuisement, l'affaiblissement, le sentiment profond que le modèle de l'égalité des places tel qu'il s'est constitué est devenu, j'en peux dire un mot ridicule, un peu dysfonctionnel, est devenu profondément injuste. C'est un modèle qui est assez conservateur, qui dit aux gens, on vous aide mais bougez pas. Les femmes, vous restez là, les immigrés, vous restez là, voilà, vous bougez pas. Et on vous aide dans ce cas. Donc ce modèle conservateur est dans une société qui, quoi qu'on en dise, est de plus en plus portée par des aspirations démocratiques, individualistes, je veux mener ma vie m'appartient, j'ai le droit de choisir, etc. Ce modèle est en crise, incontestablement.
Mais c'est ça qui permet de comprendre, du coup, qu'on a l'impression que c'est la gauche qui est devenue parfois conservatrice, alors que la droite est du côté du mouvement ?
Écoutez, quand la gauche n'est pas en mesure de dire voilà les réformes radicales que nous proposons de l'État-providence, comment on va redistribuer, par exemple, quand elle dit les classes moyennes, ça va jusqu'à 98% des revenus les plus élevés, etc., il est clair que la gauche devient le défenseur un peu sourcilleux de tout un tas de trucs en disant ça sera pire. Bon. Moi, je me défais pas d'un imaginaire assez enfantin, au fond. Mais il faut rester gamin. C'est-à-dire, ce qui était sympathique dans la gauche, c'est que je pensais qu'elle associait le progrès social à la transformation de la société. Bon, il est clair que la globalisation, la mondialisation, la perte de souveraineté politique des États nationaux, le fait que les sociétés nationales sont devenues pluriculturelles et seront des sociétés pluriculturelles, a fait que cet imaginaire-là s'épuise. Et au fond, d'un côté, il crée une sorte de radicalisme verbal dont on sait parfaitement qu'il s'accommodera de la réalité, et de l'autre côté, une sorte de fondamentalisme un peu radical, mais porté principalement par les catégories les plus protégées, qui sentent que le monde se dérobe sous leurs pas. Et donc, on glisse vers un autre imaginaire. Ce que je veux dire simplement, c'est que cet autre imaginaire que je n'attaque pas frontalement, enfin je veux dire... ce qui me surprend un peu, c'est à quel point il est peu interrogé. C'est à quel point il s'impose quasi comme allant de soi, quasi naturellement. Et il me semble que...
Alors, quelles sont les critiques qu'on peut faire à ce modèle des
inégalités ? Je l'ai fait. C'est un modèle qui n'arrête plus les inégalités. Les inégalités de place deviennent très fortes. Bon. Et alors, ce qu'on sait, parce que quand on est sociologue, on sait quand même quelquefois des petites choses, c'est que plus une société est inégalitaire en termes de position sociale, moins il y a de mobilité sociale. Il y a moins de mobilité sociale aux États-Unis qu'en France. Bon. Parce que pour qu'il y ait de la mobilité sociale, il faut que les places soient relativement resserrées.
Hein ? C'est là qu'on voit qu'il y a un lien entre les deux.
Mais évidemment. Et moi, je plaide pour l'égalité des places, pour la priorité de l'égalité des places, parce que c'est le meilleur moyen d'assurer l'égalité des chances, sans le vouloir d'une certaine façon. Bon, je prends un exemple très simple, sur un domaine que je connais un peu. Faire entrer quelques centaines de boursiers dans les grandes écoles, c'est formidable. Bon. Mais on pourrait poser la question autrement. C'est formidable pour la centaine de boursiers qui rentreront, les autres regarderont de très très loin des choses qui ne les concernent pas. Faire rentrer quelques dizaines de députés issus de l'immigration dans le Parlement, c'est formidable. Mais le reste du temps, les immigrés se taperont le sale boulot dans le bâtiment.
Ce serait formidable.
Public. Non, ça serait... C'est possible. Ça serait formidable, c'est possible. Etc. On peut... Même raisonnement sur les femmes, etc. Bon. Donc, mesurons le fait que ce modèle de justice a toujours, et on le constate tout bêtement pratiquement, il a les yeux rivés sur les élites. C'est un modèle qui regarde en haut. On pourrait dire aussi, ce qui serait pas mal, c'est de faire que la distance entre les grandes écoles et les lycées professionnels soit la plus faible possible. Et en ce cas, si les enfants défavorisés sont dans les lycées professionnels, c'est beaucoup moins dramatique. On pourrait faire en sorte que la distance entre les emplois occupés par les femmes et les emplois occupés par les hommes soit la plus faible possible. Un, on peut imaginer que les femmes bougeraient plus dans les emplois des hommes. Et deux, ça serait peut-être pas complètement tragique d'avoir un emploi de femme. On peut multiplier les exemples. J'ajoute que le modèle de l'égalité des chances supposerait que les classes dirigeantes disent à leurs enfants, à chaque génération, on recommence à zéro et vous avez l'élégance, mes chers petits, de laisser la place aux concurrents. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une représentation particulièrement cynique de la nature humaine pour imaginer que, de mon point de vue, et je crois que les classes dirigeantes préféreront payer des impôts pour réduire les inégalités sociales que de se lancer dans un jeu qu'elles ne joueront d'aucune manière, en plus, qui consisterait à dire laissant la place aux concurrents. Donc, moi, j'essaie de dire, les deux modèles sont normativement excellents. Je crois que dans notre espace politique, la gauche devrait se reconstituer autour de la défense de l'égalité des places et d'une profonde réforme des politiques sociales permettant de redonner vie à ce modèle. Au lieu de ça, j'ai quand même le sentiment que l'on court
derrière un agenda qui n'est pas celui de la gauche et qui repose plutôt sur l'égalité des chances, on court
derrière l'égalité des chances, et de l'autre côté, on défend une mosaïque de petites positions. Et évidemment, le coût de ça, c'est le décrochage d'une partie considérable de la société. C'est les gamins qui ne veulent plus aller à l'école ou qui foutent le feu quand ils y vont. Je veux dire, c'est quand même pas terrible.
Il nous reste peu de temps, François Dubé, juste pour bien résumer, au fond, il y a ces deux conceptions de la justice. Vous tenez à l'une comme à l'autre. Simplement, vous proposez un dispositif, je ne sais pas si mon image sera pertinente, mais vous utilisez le mot priorité. Moi, ça m'a fait penser au choix qu'on doit faire quand on prend une photo, priorité à l'ouverture ou à la vitesse. Oui. Au fond, il y a un lien, on sait bien, entre ces deux dimensions. Il ne s'agit pas d'annuler l'une par l'autre, mais de mettre en place un dispositif, un ordre qui fait que un enclenchement se fait. C'est ça que vous proposez dans ce système.
La priorité, je ne la défends pas normativement, je veux dire... Il n'y en a pas un qui est moralement supérieur à un autre. Je dis simplement qu'à mon avis...
C'est pragmatiquement que vous défendez.
Je dis que pragmatiquement, la défense de la priorité des places est capable de réaliser l'égalité des chances, alors que la priorité à l'égalité des chances ne résoudra pas l'égalité des places et créera une société quand même méchamment compétitive et violente.
Comment votre... proposition va être reçue notamment par la gauche. Je sais que le journal Le Monde a fait réagir quelques responsables socialistes à votre travail.
Écoutez, je n'ai pas l'ombre d'une idée sur la question. On n'écrit pas des livres de ce type simplement pour se faire plaisir. Voilà. Donc on peut toujours rêver.
Merci beaucoup François Dubé. Les places et les chances, repenser la justice sociale, c'est publié dans la collection La République des idées aux éditions du Seuil. La société française, toujours dans le titre d'un gros volume, Les nouvelles frontières de la société française, un volume qui paraît aux éditions La Découverte sous la direction de Didier Fassin, anthropologue, médecin qui est désormais professeur à l'Institute for Advanced Studies à Princeton et qui a regroupé de nombreux chercheurs, sociologues, économistes, anthropologues pour penser la question des frontières, pas seulement les frontières géographiques, même s'il est beaucoup question dans ce livre de sans-papiers, de franchissement des frontières géographiques. Il est aussi question de frontières un peu plus souterraines qui traversent la société française et qui délimitent des groupes sociaux, précisément parfois des statuts dont on a parlé aujourd'hui avec François Dubé. Les nouvelles frontières de la société française, je vous recommande vivement la lecture de cet ouvrage collectif aux éditions La Découverte. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Anne-Catherine Lochard, à la technique Alexandre Dang, à la réalisation Jean-Christophe Francis. À 12h30, le journal sur France Culture.